RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Retour des grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec autour de la table aujourd'hui Charles Consigny, l'avocat, Bruno Poncet, le cheminot, la prof d'histoire Joe, Barbara Lefebvre. Tout à l'heure, on parlera de cette pétition qui circule et qui a déjà recueilli 23 millions de signatures. C'est une pétition pour exclure l'Argentine de la prochaine Coupe du Monde après le comportement que d'aucuns ont jugé inacceptable des Argentins sur le terrain, particulièrement violent, et visiblement dans le monde entier on en a marre de ces joueurs argentins et on ne voudrait plus les voir sur les terrains de foot. Alors est-ce que vous pourriez signer cette pétition pour exclure l'Argentine de la prochaine Coupe du Monde? Vous me le direz tout à l'heure. On parlera aussi du faux départ de Dominique Barbu, la ministre de la transition écologique, qui avait dit si jamais les deux pesticides seront introduits je m'en vais. Bon, finalement elle reste. Emmanuel Macron a voulu la garder. Alors déjà, un, pourquoi Emmanuel Macron tient à garder Monique Barbu? Deux, pourquoi s'est-elle en quelque sorte reniée? Est-ce que c'est pas tout ça assez ridicule? On en parlera avec les grandes gueules et avec vous au 32-16. Mais pour commencer, nous accueillons notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
C'est le commandant Septi Kadimala, porte-parole de la sécurité civile. Bonjour.
Bonjour.
Faisons le point avec vous tout d'abord sur ce qui se passe en Gironde, avec un feu particulièrement virulent qui s'est déclaré. On est au nord du bassin d'Arcachon. Il a parcouru plus de 2400 hectares en quelques heures. Il n'est toujours pas maîtrisé.
En effet, au moment où je vous parle, le feu n'est pas fixé, ce qui veut dire qu'il y a encore une propagation potentielle qui peut menacer notamment des points sensibles, à savoir des habitations et des lieux de vie. Hein. On est d'ailleurs sur un front de flamme qui se rapproche de l'aigle, ce qui fait que forcément, l'enjeu au moment où je vous parle, c'est vraiment de préserver les populations, de réfléchir soit à les confiner, soit à les évacuer. Ça sera les enjeux des prochaines heures.
On en a évacué beaucoup déjà, je crois qu'il y a 12 000 personnes, exactement, des touristes, la plupart, exactement, qui ont été évacués de camping.
Ce qu'il faut retenir sur ce terrain-là, c'est que en fonction de la situation, en fonction de la profondeur de propagation, on va soit pouvoir les confiner parce qu'on considère que leur lieu de vie peut protéger et laisser passer le passage des fumées notamment, ou alors on va précipiter une évacuation avec un cheminement sécurisé par les autorités vers un lieu d'accueil des personnes dans le cadre des mécanismes de protection communale.
Quelle est la difficulté sur ce feu-là? C'est du pin?
C'est du pin, c'est de la forêt de pin vieille, enfin jeune, justement moins de 20 ans. Donc en fait, on est déjà sur des grandes cimes qui vont générer un important volume d'énergie. Ce sont des cimes d'arbres qui vont du coup s'enflammer, nous contraindre nous dans nos missions d'extinction, parce que éteindre des forêts de pins, c'est pas éteindre un feu d'herbe basse.
C'est un peu similaire à ce qui s'est passé à Fontainebleau.
Dans une certaine mesure, oui, puisqu'on est quand même sur un massif arboristique qui est quand même conséquent, et pour lequel déjà il faudrait conjuguer une difficulté d'accès, une énergie qui va rendre difficile notre progression, une enveloppe de flammes une enveloppe de feu qui prend une envergure de plus de 2000 hectares. Donc c'est aussi des enjeux de pouvoir projeter l'ensemble de nos personnels afin d'envelopper et du coup de couper la propagation de cet incendie.
Et la presqu'île du Cap Ferret est inaccessible toujours. Hein.
Ça c'est un réel enjeu aussi. On n'est pas sur un massif forestier qui est isolé de tout tiers. On est sur un centre stratégique de la Gironde pour lequel il va falloir rapidement contenir ce feu pour ensuite travailler sur son intensité, mais surtout préserver les populations et les animaux qui sont les premières victimes de ce type d'incendie.
Des canadairs sont mobilisés?
Deux. À 9h30, selon les derniers éléments qui m'ont été rapportés, deux canadairs ont été projetés en complément des autres moyens aériens, puisqu'on a des hélicoptères bombardiers d'eau, on a aussi d'autres avions qui sont prépositionnés. Juste cet été, pour vous dire, dans le cadre de notre stratégie nationale, nous avons déjà un Dash et deux autres moyens aériens qui sont à disposition, prépositionnés sur l'ensemble de cette période estivale.
La France fait face au feu parce qu'il y a la Gironde, il y a le Var, mais il y a des incendies un peu partout. Hein. On n'en parle pas forcément, mais dans le sud, mais aussi en Bretagne, dans le Morbihan hier. Est-ce qu'on a suffisamment de moyens pour faire face à ce défi cet été, particulièrement ces incendies qui se déclarent sur tout le territoire?
Pour répondre à votre question, je vais faire d'abord nos opportunités et nos menaces. L'opportunité, c'est qu'on a une réelle profondeur opérationnelle. Nos moyens peuvent à la fois secourir pompiers départementaux qui, eux, seront les premiers intervenants et qui vont pouvoir absorber cette première pression opérationnelle. On aura ensuite les moyens nationaux, la brigade des militaires de la sécurité civile. On a aussi des renforts d'autres départements qui vont pouvoir venir épauler nos collègues directement sur le terrain. Et puis, on a, en troisième stade, la coopération européenne. Ça, c'est notre force. On a aussi un mécanisme d'anticipation où, désormais, depuis quelques années, depuis même 2023, fort de cette virulence des incendies et de ces incendies hors normes qui commencent à apparaître, je précise, la Gironde n'est pas un incendie hors normes pour le moment.
Non, pas pour l'instant.
Mais par contre, on en a connu depuis 2022. On a commencé à réfléchir, à repenser notre stratégie de lutte contre les feux de forêt, à prépositionner des moyens dans les différents endroits qui sont considérés comme vulnérables. On travaille en circuit court avec Météo France, pour lequel maintenant on organise des guets aériens armés, ce sont des patrouilles aériennes, pour vous dire, où on va pouvoir organiser une attaque massive précoce du feu. Maintenant, notre vulnérabilité, c'est quoi ? C'est que depuis maintenant, le 18 juin, entre les canicules et l'éclosion de ces nombreux incendies, nos pompiers sont fatigués. Ouais. Nos pompiers professionnels sont fatigués, nos pompiers volontaires sont fatigués, et il faut bien comprendre que la lutte contre le feu de forêt doit se déciloter uniquement des moyens. Ce n'est pas parce qu'on achètera 100 canadaires ou c'est parce qu'on recrutera 10 000 hommes.
Il y a les hommes.
Il y a les hommes, mais il y a surtout la prévention. On est face à des feux qui sont conséquents, multiples sur l'ensemble du territoire national. On ne pourra jamais, à un moment donné, avoir suffisamment de moyens pour absorber une charge, une telle charge qui va continuer à augmenter. Il faut aussi que le citoyen devienne ce premier pompier de France.
Ben, le citoyen pompier de France, c'est donc le citoyen qui doit débroussailler chez lui,
oui,
qui doit arrêter avec ses gestes complètement dingue, jeter le mégot, faire un barbecue au moment où on lui dit pas d'arrêter d'en faire, la randonnée dans un massif qui est fermé.
Bah exactement, le mégot de cigarette, juste le mégot de cigarette, quand on le jette, dès qu'il y a un vent supérieur à 5 km/h, le mégot peut se déplacer et peut toucher une végétation. La végétation, elle peut commencer à s'enflammer à partir de 150 degrés. La mèche de la cigarette, ça génère déjà 400 degrés. L'équation est simple. À partir du moment, on n'a pas besoin d'énormément de conditions pour provoquer un incendie. Un mégot bien positionné peut provoquer ce type d'incendie. Et puis malheureusement aussi, on a des personnes, mais qui n'ont peut-être pas forcément la conscience du risque que ça peut occasionner, mais font encore des barbecues dans des zones qui sont interdites.
Mais j'ai entendu le préfet du Var dire pas de barbecue aujourd'hui.
Bien sûr. Et d'ailleurs, le préfet du Var qui avait pris des mesures de sanctuarisation des massifs forestiers dès le début de la semaine. Pourquoi ? Parce que le risque était imminent.
Oui, mais on a vu des gens se balader dans ces massifs.
C'est pour ça. Finalement, et ça répond à votre question. Parce que nos moyens sont préparés à absorber une situation qui est exceptionnelle.
Mais il va falloir que les citoyens s'y mettent aussi. Quoi.
Exactement.
Pas toujours attendre tout du pompier, la force
tout
publique.
Parce qu'au-delà du risque feu de forêt, on a la pression opérationnelle touristique. On est sur des départements du sud qui drainent énormément de population et pour lesquels il y a aussi forcément plus d'accidentologie.
Bruno Poncet, Charles Consigny.
Moi, je voudrais déjà profiter de la présence du commandant pour rendre hommage et dire merci à tous les pompiers qui sont engagés. Et malheureusement, tous les ans, nous, on a le droit. Nous, on débat tous les six, donc on est à la bonne place. Mais tous les ans, on débat de la même chose.
Il faut rappeler qu'il y a deux sapeurs-pompiers qui sont morts en Gironde.
Et un troisième qui est décédé dans un éboulement la semaine dernière.
Des gars super.
Et en fait, nous, on pose toujours la même question. C'est comment nous, quand on vous voit arriver, on sait que c'est pas bon signe quand vous êtes à côté de nous. Mais comment on peut faire pendant les 8-9 mois où il n'y a pas ces incendies pour aller conscientiser plus le Français et donc les enfants en premier, parce qu'il faut commencer par eux. Et puis après, aller voir aussi les adultes. Vous dites le jeter de mégot, mais qui dans sa tête peut se dire qu'un mégot qui va mettre je sais pas combien de centaines d'années à être éliminé peut jeter ça dans la rue aujourd'hui? On est en 2026, ça fait des années qu'on dit qu'il faut pas le faire. Et donc nous on se dit qu'il y a pas-t-il un moyen pédagogique, sociologique, mais pour aller voir les gens, leur dire bah voilà, à un moment donné éduquons-les quoi. Mais quelqu'un qui, enfin un adulte comme nous là, moi j'ai 50 piges, Barbara dans mes
yeux,
enfin nous à un moment donné, mais c'est vrai, je suis très jeune.
Plus jeune, on n'est pas la même génération.
Voilà. Mais c'est vrai que nous on entend ça depuis des années et on est quand même assez conscient pour faire ce genre de choses, mais aujourd'hui on voit encore des choses. Nous, dans la rue à Paris, vous voyez bien, enfin, vous habitez aussi en région parisienne, dans la rue, on voit des gens encore jeter des trucs dans la rue, mais c'est dingue en fait. Nous, on se demande,
c'est
comment
un peu
faire
l'égoïsme pour aussi. Hein.
Vous ciblez la parfaite vulnérabilité de ce dispositif, c'est qu'on sous-estime encore trop le risque et on sous-estime nos pratiques et les effets que nos pratiques peuvent avoir sur l'environnement et sur les départs d'incendie. Je vous parlais des mégots de cigarettes, mais finalement, même faire du bricolage dans une zone verte, dans une zone où en fait on a même du gazon ou un espace boisé, bah forcément, si on manipule des outils qui génèrent une source de chaleur, dans un contexte climatique qui est dégradé, puisqu'on est quand même sur une sécheresse confirmée, on a ça. Mais vous l'avez très bien dit, en fait, cette démarche de prévention, elle ne se fait pas et elle ne doit pas, surtout pas se faire uniquement au mois de juin. juillet. Elle doit se faire au quotidien. C'est finalement un mécanisme de résilience nationale, un mécanisme de résilience où on doit apprendre dès le plus jeune âge, au quotidien, que maintenant, pour protéger son territoire, pour protéger des vies, il faut apprendre à apprendre les bonnes pratiques, finalement.
Et est-ce qu'on pourrait pas progresser un peu sur le plan de la technologie, quand même ? C'est-à-dire, j'en sais rien, moi, mais surveiller avec des drones, ou même envoyer des drones pour éteindre les débuts d'incendie, surveiller tout ça par satellite, par l'intelligence artificielle. Je pense qu'il va pas se passer longtemps avant qu'en Chine, les forêts soit surveillé et protégé entièrement par des robots, envoyer des robots terrestres. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on pourrait pas quand même investir un peu aussi sur ce plan-là ?
Alors, vous prenez l'exemple de la Chine. D'ailleurs, la Chine a commencé à réfléchir à la mise en œuvre de drones extincteurs, avec justement sur des feux de notamment des immeubles de grande hauteur.
Des drones extincteurs.
Voilà. La seule problématique, c'est que pour le moment, la technologie drone, en fait, n'est pas forcément encore adaptée au processus d'extinction qui nécessite en fait un feu bâtimentaire, feu de forêt. Au moment où on se parle, et vous avez tout à fait raison de le pointer, il y a un réel sujet et l'école d'application de la sécurité civile, donc à Valabre, mais aussi au sein de la direction générale, nous avons des bureaux liés à l'innovation qui travaillent désormais sur tout ce qui est nouvelles technologies, parce que les nouvelles technologies sont nos amis, en fait. On parle de l'IA, on l'utilise tous au quotidien. L'IA va devenir aussi notre collègue. Ça va être un mécanisme qui permettra de détecter plus rapidement via de l'IA des sources de chaleur. Lorsque vous voyez sur les guets, donc ces tours que vous avez dans les forêts, on réfléchit d'ores et déjà à faire de la détection automatique via de l'intelligence artificielle pour rapidement en fait pouvoir employer les moyens.
Mais est-ce qu'on va investir dans des drones, par exemple ?
Des drones, au moment où on se parle, dans énormément de départements et de plus en plus.
Il y en a.
Le vrai sujet maintenant, c'est la réglementation drone. Il faut que cette réglementation continue à s'adapter à nos besoins de sapeurs-pompiers, puisque c'est un corpus de loi qui doit s'adapter désormais à ce nouvel emploi des drones, parce que les drones étaient d'abord sur du loisir. Les sapeurs-pompiers se sont rendus compte que en fait projeter rapidement un moyen sans pilote, assez souple, sur une zone d'intervention permettant de visualiser, c'est réellement une vraie plus-value. Je vous le dis, même en région parisienne, sur des feux d'entrepôt, le drone, c'est un élément stratégique. Ça nous permet de rediriger nos flots d'extinction, ça nous permet d'identifier si nos moyens sont bien répartis sur l'ensemble de la zone. Donc en effet, l'innovation, c'est un sujet, on doit prendre le pas, et c'est un pas qui a déjà été pris, puisqu'on a maintenant même un bureau sur l'innovation, pour justement utiliser d'autres outils qui sont du quotidien à notre profit.
Mais la question, avez-vous les moyens financiers pour aller au bout de ces innovations, parce que des chercheurs en France, des cerveaux en France, on en a beaucoup, mais ensuite c'est la réalisation industrielle, la mise en œuvre technologique et concrète, matérielle, la production de nos innovations et de notre génie qui pose problème. Donc avez-vous l'assurance que tous vos ingénieurs, etc., qui travaillent sur de nouveaux outils, vont bénéficier de suffisamment de soutien, parce que vous êtes la sécurité civile, donc vous êtes lié à l'État, est-ce que des budgets sont spécifiquement alloués à la recherche et à la production de nouvelles technologies, ou bien est-ce que finalement on sera amené à acheter chinois ou américain ou australien ?
Dans le cadre de ces innovations-là, on est sur un projet qui est plus, le budget qui est alloué à la sécurité civile est bien plus large que uniquement les innovations, et en effet vous avez des postes de dépenses qui sont attribués à chaque thématique. Depuis 2022 et le pacte capacitaire qui a été pris par le président de la République le 28 octobre 2022, il y a eu un engagement déjà de 150 millions d'euros qui ont été donnés par l'État, plus les 100 millions des collectivités territoriales, pour déjà nous renforcer sur nos moyens. Donc on est à l'horizon 2028 sur 1048 engins qui vont venir renforcer notre parc, ainsi que l'augmentation de nombreuses colonnes de renfort qui vont constituer cette réponse. Pour répondre spécifiquement à votre question, dans cette démarche-là, le ministère et la politique a pris conscience de ce risque, qu'il va falloir adapter nos différents moyens au nouveau risque avec de la nouvelle technologie, et pour lequel on voit émerger des financements qui vont nous permettre aussi à l'échelle européenne de continuer à rechercher, trouver des technologies qui vont nous permettre d'optimiser nos actions.
Alors on va écouter Hervé qui nous appelle au 32-16, qui est également sapeur-pompier. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Et vous nous appelez de Mérignac, en Gironde, là où Absolument. S'est déclaré cette semaine un incendie près de l'aéroport Bordeaux-Mérignac. Et vous dites que les pompiers sont fatigués parce que souvent on leur demande de faire des missions qui ne sont pas toujours des missions premières, c'est ça ?
Oui, c'est surtout ça, en fait. Aujourd'hui, le pompier, en fait, allé au feu, c'est sa mission première. Sauf que le pompier qui va au feu aujourd'hui, hier ou lors de la prochaine garde, il sera affecté à toutes sortes de missions, mais des missions qui ne sont pas les missions premières des sapeurs-pompiers.
Quoi, par exemple ?
On peut aller à la demande du SAMU, aller chercher quelqu'un chez lui pour l'amener à l'hôpital, pour de la bobologie, par carence, on va appeler ça par carence, ou des fois même par urgence, mais qui n'est pas du tout de l'urgence, hein. Et ces pompiers-là, bah, ils vont à l'hôpital. On a des temps d'attente de 2, 3, 4, 5, jusqu'à 8 heures d'attente à l'hôpital.
Ah oui.
Et voilà, ce pompier-là, en fait, il est utilisé à tout et n'importe quoi aujourd'hui.
Donc, quand réorienter les pompiers vers les urgences, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que ce n'est pas la mission première des pompiers.
D'ailleurs, Hervé, en fait, vous avez été longtemps en grève, tout en travaillant, évidemment, hein, avec le panneau. Moi, je me rappelle très bien, pendant ça a duré au moins 2 ans, hein, les grèves des pompiers, où il y avait le panneau en grève sur les... Ça, vous avez réussi à obtenir quelque chose ou rien ?
Bah, du tout, hein.
Ah,
pas
voilà.
Du tout.
Ils étaient venus manifester à Paris, ils s'étaient fait dérouiller par les CRS.
Ouais.
Ça, on n'a pas oublié les images, en fait.
J'irai pas ça, mais en fait, on n'est pas du tout écouté.
Moi, je m'en rappelle très bien.
On n'est pas du tout écouté. On n'est pas catégorié comme un métier dangereux, hein. Il suffit de regarder de l'actualité aujourd'hui pour voir que c'est quand même pas un métier anodin.
Ah,
en fait, voilà. Aujourd'hui, c'est le rôle
des pompiers. Donc, il faudrait peut-être recentrer la mission des pompiers. Yeah.
C'est ce que l'on demande depuis tout le temps, en fait.
Alors, ces petits, vous vouliez réagir?
Oui, il a tout à fait raison sur un sujet, c'est que nos sapeurs-pompiers, au moment où on se parle, en fait, ne sont pas uniquement employés sur de l'incendie. Et en fait, la force qu'on a, les sapeurs-pompiers, c'est que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, quand vous avez un malaise, que vous ne vous sentez pas bien et que d'autres services ne peuvent pas venir vous secourir, on appuie sur un bouton et vous avez un véhicule de rouge qui va venir porter assistance. C'est notre force, c'est aussi pour ça qu'on s'est engagé, mais là où je rejoins Hervé, c'est qu'en effet, ce ne sont pas nos missions premières. Nos missions premières à nous, c'est la lutte contre l'incendie. La lutte contre l'incendie, c'est la mission exclusive des sapeurs-pompiers. Nous avons maintenant les secours et soins d'urgence aux personnes qui sont des missions aussi vitales pour les personnes, puisqu'on part sur des personnes qui sont en arrêt cardio-respiratoire et pour lesquelles il faut qu'on puisse porter assistance. C'est plus de 80% de nos interventions. Mais on a, et c'est constaté, c'est d'ailleurs pour ça que il y a des réflexions sur le Beauvau de la sécurité civile, sur des lois de modernisation de nos actions, pour justement tenter de cantonner un petit peu nos missions à ce qui doit être vital, permettant ainsi de nous engager uniquement sur les missions où on sera stratégique.
Il faut redéfinir tout ça, d'autant plus si effectivement ces étés se multiplient avec des incendies un peu partout à gérer. Merci, commandant Septi Kalimala, d'avoir été avec nous. Une dernière question sur l'incendie du Var.
Oui.
Il y a une grande crainte aujourd'hui, c'est le retour du Mistral. Est-ce qu'on peut faire un point?
Alors, la crainte, elle est totalement justifiée. Le Mistral, c'est un vent qui est chaud, donc qui ne va pas contribuer au refroidissement d'atmosphère et qui va du coup potentiellement ressouffler sur des braises, ressouffler, réactiver des points chauds qui étaient déjà suffisamment virulents. Dans ces conditions, tout l'enjeu aujourd'hui, ça va être de surveiller ce feu, de le maintenir dans son enveloppe.
Parce qu'il est contenu le feu, mais il y a des reprises de feu, on l'a vu hier.
Exactement. Et il subsiste des difficultés sur différents flancs pour lesquels il faudra être vigilant. Mais au moment où on se parle, c'est la journée la plus vulnérable, sur laquelle on est les plus vigilants sur le risque feu de forêt.
Merci, commandant, d'être venu à la table des grandes gueules et bon courage pour la suite. Vous,
merci à vous.
Et
merci
à ceux qui sont engagés pour combattre le feu un peu partout et notamment en Gironde en ce moment. Audrey est avec nous au 32-16. Bonjour Audrey.
Bonjour Olivier. Bonjour
les gars. Du côté de Sevran, en Seine-Saint-Denis.
Oui, ça va très bien, merci.
Vous connaissez le parc Astérix?
Oui, j'y ai travaillé il y a longtemps.
Ah bon? Ça a changé, oui. Vous allez pouvoir le découvrir, qu'il y a plein d'attractions nouvelles, puisque vous avez gagné ce séjour en famille au parc Astérix.
Je suis très contente.
C'est un séjour de 2 jours avec nuit d'hôtel sur place pour 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Vous savez avec qui vous partez?
Avec mes enfants et ma nièce.
Ah bah voilà, c'est formidable. Écoutez, passez un bon séjour au parc Astérix et merci de votre fidélité.
Merci. Gagnez votre séjour au parc Astérix sur RMC et célébrez l'été gaulois. Du 11 juillet au 30 août, profitez de soirées jusqu'à 22h et d'un tout nouveau spectacle de drones.
Monique Barbu, pourquoi finalement a-t-elle renoncé à quitter le gouvernement? Ce faux départ est-il ridicule? A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Ah, ça y est, c'est parti.
Attends,
On était à l'antenne. Ça rigole beaucoup pendant la pause.
Trop.
Et là, on est à l'antenne. Trop d'ailleurs. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. 11h25. D'autant plus que nous allons, mes chères grandes gueules, évoquer le cas de Monique Barbu.
Ah oui.
C'est un cas très sérieux. La République était en danger. Mais Monique Barbu a décidé de rester à son poste
de silence
de ministre. Une sorte de sacrifice. Elle est ministre de la transition écologique. Il y a encore plein de dossiers à traiter. Et Emmanuel Macron l'a convaincue de rester. Est-ce que ce faux départ de Monique Barbu est ridicule?
Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout feu. dit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain.
Alors écoutez ce que disait Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui était l'invitée ce matin de BFM TV.
Le président de la République a refusé sa démission et ils se sont en revanche accordés sur trois piliers fondamentaux qui fondent son action. La question des forêts, la question de l'eau et la question de la santé environnementale. Trois piliers, trois chantiers donc sur lesquels Monique Barbu a accepté de rester pleinement investi et le président de la République, le Premier ministre et Monique Barbu se sont accordés à dire que notamment sur ces trois chantiers que sont l'eau, la forêt et la santé environnementale, son action et son engagement étaient évidemment déterminants.
Mais au bout de sa vie, la mode région, on est d'accord, Olivier.
Elle est fatiguée, mais les vacances arrivent.
Alors, ah
Monique, avait effectivement, Monique Barbu avait effectivement annoncé son intention de démissionner, elle a fait savoir à tout le monde, après l'adoption de cette loi d'urgence agricole, en particulier à cause de la réintroduction de l'acétamipride, et puis de l'autre pesticide que je ne vais pas nommer, parce que c'est imprononçable, et qu'elle juge incompatible avec le principe de précaution. Bon, finalement, elle est restée au gouvernement pour plusieurs raisons. Un, Macron a refusé sa démission. Il lui a demandé de poursuivre sa mission. Deux, elle a eu un entretien visiblement positif, dit-elle, avec le Premier ministre Sébastien Lecornu. Elle a obtenu des concessions sur des dossiers environnementaux. Elle estime désormais qu'elle sera plus utile en restant au gouvernement qu'en le quittant. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un psychodrame pour rien. Est-ce que c'était totalement ridicule ou est-ce que c'est l'avis du gouvernement qu'il ne faut pas en faire des tonnes? Charles Consigny.
Non, je trouve ça grotesque, honnêtement. Et ça aurait eu de l'allure qu'elle claque la porte en disant « Je suis là pour défendre l'écologie. L'écologie... dans tous les sens du terme, c'est-à-dire y compris ne pas filer des cancers aux gens avec des pesticides.
C'est pas avéré pour cela.
Ouais, c'est marrant, c'est jamais avéré. Oui.
Bah, c'est comme le chlordécone, au final c'est avéré, mais c'était pas avéré.
Factuellement, il n'y a aucune étude scientifique.
Il y a des fortes suspicions.
Olivier,
franchement,
vous pouvez croire ce que vous voulez.
Olivier,
moi, factuellement, il n'y a aucune étude.
Écoute, Olivier, attends, un petit verre de citribitride là, tu vois.
Mais tu sais qu'on en mange dans tous les
aliments. Bah oui, c'est le jury qui parle. Très souvent, quand il y a des débats sur la toxicité d'un produit, c'est en réalité que ce produit est toxique et que son fabricant ou son revendeur s'acharne à essayer d'installer le doute.
Indépendantes.
Certaines études scientifiques sont payées par le lobby.
Le débat n'est pas là. Le débat est sur l'attitude politique.
Il y a eu le cas. Juste en un mot, je me souviens par exemple très bien d'un certain vaccin, je ne sais plus lequel, qui a été suspecté pendant des années d'avoir fait développer des scléroses en plaques.
Ouais, c'était l'hépatite.
Pendant des années, le labo disait non, pas de lien. Plein de scientifiques disaient non, pas de lien. Et de fil en aiguille quand même, au bout du compte, c'est la justice qui a fini par trancher selon les éléments qui lui ont été mis sous le nez et elle a reconnu le lien de causalité.
Mais sur Monique Barbu.
Oui, mais donc moi ce que je dis, c'est que quand il y a débat sur la toxicité d'un produit, très souvent c'est que ce produit est toxique. Donc je pense que Madame Barbu aurait dû... ça avait de l'allure qu'elle claque la porte en disant finalement ces gens sont vendus au lobby ou que sais-je. Elle ne l'a pas fait. J'espère pour elle que c'est pas parce que tout bien pesé, elle trouve ça quand même assez confort d'être ministre.
Pourtant, elle reprochait de pas beaucoup travailler.
Je sais pas.
Vous connaissez son surnom.
Apparemment, elle est fatiguée.
Vous connaissez son surnom.
Dites-moi.
On l'appelle Madame Transat. Et pourquoi on l'appelle Madame Transat? Parce que j'ai lu ça dans le Figaro. C'est très méchant, mais parce qu'elle a une villa dans le sud et visiblement elle passe plus de temps dans sa villa du sud que dans son ministère.
Ah, c'est celle qui a fait des voyages.
Certains de ses collègues.
Celle qui a fait des voyages. J'ai pas longtemps.
Madame Transat.
En tout cas, voilà. Moi, je pense qu'elle aurait dû maintenir cette démission. Et ce faisant, montrer son opposition farouche à ce texte de loi.
La question, c'est pourquoi Emmanuel Macron voulait la garder?
Parce que WWF.
Parce que
c'est l'ancienne directrice de la WWF.
C'est pour pas jeter l'opprobre sur la fin de son mandat.
Voilà, Macron, il veut garder jusqu'à la fin de son mandat cette espèce de gouvernement arc-en-ciel où on trouve un peu de tout et de n'importe quoi.
N'importe quoi, surtout.
Une présidente d'une ONG bien connue qui mène des actions pas toujours vraiment centré sur les animaux, mais enfin bon, quelquefois il y a quelques prises de position géopolitique de la WWF, tu te demandes bien ce que ça vient faire là, mais enfin c'est pas grave. Donc voilà, il veut la garder pour l'image qu'elle représente. Il en a rien à faire de Madame Barbu et de ses compétences ou incompétences. Il veut garder l'ancienne directrice du WWF qui cohabite avec Madame Genevard, qui est la copine de la FNSEA. Voilà, c'est le grand truc de Macron. Jusqu'au bout, on aura été dans le grand écart. Voilà.
Il prend le risque que ça lui pète à la figure sur un autre dossier. Parce que je trouve que Madame Monique Barbu, c'est assez intéressant avec elle, c'est qu'elle n'a pas les codes politiques. Je vois bien comment elle s'exprime. D'ailleurs, elle refuse beaucoup d'interviews. C'est très difficile de la faire venir. C'est un peu dommage parce que là, il y a quand même pas mal de sujets concernant la transition écologique.
Elle pourrait venir aux grandes gueules, tu me diras.
Elle pourrait venir dans les grandes gueules. Mais quand elle a parlé de la clim, etc., elle a fait les sorties un peu à l'emporte-pièce, il garde quelqu'un qui semble pas très maîtrisable.
Dis donc, un entretien avec le cornu qui est quand même pas le plus plus compliqué à regarder. Hop, c'est bon, je reste. Enfin, tu vois, Olivier, maîtrisable. Moi, je sais pas, mais je trouve que, en fait, encore une fois, tu vois des hommes et des femmes politiques qui, à un moment donné, soi-disant, ont des valeurs, historique, et en fait, à la fin, non. Non. La place est bonne. Le chauffeur avec le gyrophare, c'est sympa. Et en fait, comme disait Barbara,
l'ancienne pas fait sa vie en politique. Elle a des moyens à côté.
Et ben pourquoi t'as été fourré dans un gouvernement qui fera toujours le contraire de ce que toi t'as défendu toute ta vie? Mais excuse-moi,
peut-être
Olivier,
qu'elle pense pouvoir agir de l'intérieur.
Un désir de l'intérieur dans
c'était
un gouvernement.
C'était le raisonnement des pétainistes, hein.
Ouais. Voilà, puis pas que. Ou des trotskistes aussi, ils avaient l'entrisme.
Bien sûr, c'était le raisonnement des pétainistes. Tout à
fait. Non, mais ça s'appelle l'entrisme.
Ils s'estimaient plus courageux.
Vous vous souvenez ce que disait Jean-Pierre Chevènement? C'est pour ça que je le citais, parce que Jean-Pierre Chevènement, il a démissionné deux fois de gouvernement. C'était un peu une habitude. Il avait dit, un ministre, ça obéit, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et donc là, elle va obéir, elle va fermer sa gueule.
Elle a déjà obéi, là. Enfin, en fait, quand t'es ministre et que tu laisses passer un truc où il y a deux pesticides quand même qui sont alors à t'entendre, voilà, mais sauf que non, Olivier, en fait, la plupart des gens te disent.
Non, le débat n'est pas sur ça, parce qu'on l'a déjà fait.
Non, mais je te le dis, en fait, cette dame, elle a été à l'encontre de ses valeurs. Comment tu pleurais dans une glace? Toute ta vie, t'as défendu un organisme avec un panda dessus, et en fait, les pandas, tu vas les buter.
Non, mais en plus, excusez-moi, mais la communication gouvernementale qui est faite derrière ça pour dire, on lui a donné la forêt, l'eau et la santé environnementale, ça ne veut rien dire. Bien sûr. Écoutais.
Des garanties
Maud Bréjon, mais c'était vraiment parler pour ne rien dire. Elle n'a pas vraiment de mission spécifique. On l'a pas mis sur des dossiers brûlants. Enfin, si, la forêt, c'est brûlant. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, Madame Barbu? Elle va aller éteindre le feu, elle toute seule, avec ses petits bras. Donc, c'est vraiment calamiteux, cette communauté. C'est vraiment, on est vraiment fin de régime. Là, on a l'impression que c'est la fin des fins.
Dis-moi.
Il attend plus qu'un truc, Monsieur Le Cornu, c'est le budget. D'ailleurs, il nous a fait sa petite interview Paris Match. Petit clin d'œil à 2027. Ces gens n'hésitent pas. Rien ne les arrête. Par contre, c'est la déliquescence complète. Et à l'Élysée, je pense que oui, il est sorti de sa torpeur pour aller dire à Monique, allez Monique, reste, viens finir avec nous, on déménagera ensemble.
Le président Macron veut aussi présenter un bilan. Là, il est en train de préparer, pas sa réélection, mais il prépare sa sortie.
Olivier,
il veut qu'on puisse dire que quand il avait annoncé que son quinquennat serait écologique, il veut le démontrer. Donc, il a besoin du Monique Barbu. Ben oui. Là, il est en train de préparer sa sortie.
Franchement, elle a loupé le coche. Elle a loupé le coche.
Elle fait une virginité en ce baron.
Mais au moins elle marquait le coup. Voilà. La politique, ça peut pas être que des.
On a l'impression qu'elle mange son chapeau.
Ses arrangements, c'est pathétique. À quelques mois de la fin du truc, qu'est-ce qu'elle en a à foutre à son âge? Surtout si elle préfère être dans le sud, dans son transat. Qu'est-ce qu'elle en a à faire?
Elle dit elle-même que elle a des garanties et qu'elle va pouvoir faire bouger des choses.
Attends. Si on lui donne des garanties sur.
Attends, elle est intouchable.
Si on lui donne des garanties sur d'autres choses.
Voilà.
Et pas sur les pesticides en question, c'est quand même une défaite en race campagne.
Ou peut-être une petite garantie de après 2027. Une petite garantie de recasage après.
Une agence ou
une jolie agence. Regardez, quand on voit que Papendiaï a fini au Conseil de l'Europe, vous savez combien il est marge à combien, Papendiaï? Donc, et il n'a pas fait des merveilles à l'éducation nationale. Donc peut-être que Madame Barbu, il lui a dit, écoute, allez, reste tranquille encore quelques mois et tu vas avoir un recasage, pas piqué des hannetons, genre à l'ONU. Représentante de la France à matrice d'épaule, je ne sais quoi.
Défenseuse des ours blancs, peut-être.
Ouais, elle va être contente.
Manu est avec nous, 32-16, depuis la Corse du Sud. Salut Manu.
Salut, t'es comme vous êtes.
Salut, t'es Manu.
Eh bien, toujours, il fait. Quel temps il fait, tiens, Marchovec?
Là, il fait chaud, beau temps, ça a baissé un petit peu, ça va, on est dans les 35.
Parfait. Vous êtes président aussi de la Fédération Corse de Pêche, c'est ça?
C'est ça. Je suis vice-président de la Fédération Corse des pêches récréatives. C'est une fédération qu'on a fait nous-mêmes, hein, pour, ben, on a porté des projets de, en justice, enfin, on a mené des actions en justice contre l'État par rapport à certaines lois qui nous imposaient. Et on a souvent affaire, justement, ben, aux personnes de l'Office de l'Environnement, etc.
Avec qui vous êtes content que Monique Barbu reste?
Non, mais là, bon, il faut arrêter. C'est une blague. C'est une vaste blague, les amis. Ces gens-là, ils sont là pour le portefeuille. La soupe est bonne. Faut arrêter.
Alors, vraiment pas, parce que vraiment, elle a fait sa carrière ailleurs. Je pense qu'elle a pas besoin d'argent.
Oui, mais enfin, il y a du reclassage, parce qu'on reste pas sa vie. On reste pas sa vie au WWF. Je pense que derrière, il va y avoir un joli portefeuille.
Pour, bien sûr. Mais
qui n'a pas recasé? Honnêtement, qui n'a pas recasé?
Ah, il a recasé tout le monde. Et bien, grassement.
Elle ira chez Chan, comme un castaner.
C'est pas un idiot, hein, le président. On n'est pas d'accord.
Elle a 69 ans, Monique Barbu. Donc, voyez,
et en plus, il les a souvent recasés dans la haute fonction publique, c'est-à-dire ils continuent d'être payés par le contribuable. Ah bah oui, ils vont pas aller dans le privé.
Toujours le mal. En fait, oui, toujours.
Non, mais c'est mon argent. Parce que tu dis.
Non, mais sérieusement, je pense que Monique Barbu, moi, je vais la défendre un peu. C'est-à-dire qu'elle.
Bah tout à l'heure, t'as dit que c'était Madame Transat.
Bravo, belle défense, Olivier.
C'est pas moi qui le dis, ça. C'est.
Et en plus, Manu, elle a dit qu'elle aimait pas les Corses. Alors, je sais pas quelle. Votre réaction par rapport à ça?
Il y a personne qui nous aime, mais tout le monde nous envie.
Bon, non, moi je vous aime. Alors là, c'est pas vrai.
Quelque chose.
Moi, j'aime les Corses.
Dites-moi, on a eu une petite expérience à l'Office de l'Environnement. Il y a une présidente qui devait être nommée. Je ne sais pas si elle a été nommée. C'est Madame Le Tar ou Le Strat, quelque chose comme ça, qui venait aussi du WWF. Et ça a pété parce qu'ils ont dit comment c'est partisan. On va mettre encore en place des gens sur un sujet qui est. Moi, je dis pas l'écologie, mais la protection de l'environnement. Je préfère qu'on dise ça parce que l'écologie, c'est plus devenu un parti qu'une cause aujourd'hui. Ouais. Donc, je préférais qu'on appelle ça autrement. Et on nous a mis cette personne-là. Donc, il y a eu levée de boucliers, des chasseurs de tout le monde. Et vous savez ce qu'elle a fait, cette dame, pour pouvoir avoir le poste et pour pouvoir être aimée de tout le monde? Elle a dit, mais je vais passer mon permis de chasse. C'est-à-dire qu'elle s'est assise sur ses convictions pour pouvoir obtenir le poste. Elle est allée passer un permis de chasse. Donc, moi, ces gens-là, je n'ai aucune confiance en eux.
Mais en plus, elle respecte même pas les chasseurs et les Corses.
Merci, Manu. Ça, merci pour l'anecdote,
Attends, deux secondes. Je te dis encore un petit truc.
Très vite.
Ces gens-là, si tu préfères, dès qu'ils ont l'opportunité de toucher le Graal, tu ne les enlèves plus.
C'est fini. Sûr.
Voilà. Donc, ne rêvez pas. L'OFD finance des associations anti-chasse. Ça, c'est un fait aussi. Donc, c'est bien mignon, tout ça, mais c'est toujours... partisan, ça va toujours dans un as. Il y a jamais d'opposition, il y a jamais de contradiction.
D'accord.
On va trouver ce qu'on cherche, toujours. Voilà.
Merci Manu, merci d'avoir appelé depuis la Corse du Sud, un fidèle des GG. Le faux départ de Monique Barbu, est-ce ridicule? On a posé la question sur le compte X des Grandes Gueules, on va regarder le résultat.
97,9.
Aïe, 97,9.
Non, même
2,1. Non, mais Olivier a fait voter sa famille.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça.
Les 2,1, Olivier, c'est ta famille.
C'est rare autant.
Ah oui, là.
Olivier, t'as fait voter ta famille pour les 2,1, dis la vérité.
Je pense qu'elle devrait essayer de se présenter pour 2027.
Qu'on a trouvé des défenseurs.
Dans un instant, est-ce que vous auriez pu signer cette pétition qui circulait pour exclure l'Argentine de la Coupe du Monde après le comportement jugé inadmissible des joueurs argentins pendant toute la compétition. Beaucoup de triche, de brutalité. Alors on nous dit c'est un jeu viril. Oui, mais enfin, on n'est pas obligé de jouer comme des voyous. Ah bah oui, si, il y a eu des oui, bien sûr. On simule des fautes. On dénonce des petits camarades pour des fautes qui n'ont pas été commises, etc. Il y a des vidéos qui circulent et Lionel Messi n'est pas le dernier. À tout de suite sur RMC Story.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
RMC Story avec autour de la table dans les grandes gueules ce matin Charles Consigny l'avocat, Bruno Poncet le cheminot et notre prof d'histoire du haut Barbara Lefebvre. Il y a une pétition qui a circulé, elle a été clôturée, mais elle a recueilli quand même 23 millions de signatures. Pétition pour exclure l'Argentine de la Coupe du Monde. Les Argentins étaient les joueurs les plus détestés de cette Coupe du Monde en raison de leur comportement souvent jugé inadmissible. Cette pétition a frôlé le record absolu de signatures. Une pétition qui demandait que l'Argentine ne joue plus la Coupe du Monde. 23 millions de signatures. Finalement, elle a été clôturée parce que l'Espagne, en quelque sorte, a fait justice à tous ceux qui estimaient que les Argentins s'étaient très mal comportés pendant cette Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de brutalité. Alors, on va appeler ça le jeu agressif, mais c'était pas loin quand même d'un jeu de racaille. Pardon, hein, moi, pour avoir vu beaucoup de matchs avec l'Argentine, ce comportement de voyou n'était pas à la hauteur des grands joueurs que comporte cette équipe, notamment Lionel Messi. Et même pendant la finale, on a vu des choses quand même assez incroyables. Est-ce que vous auriez pu signer cette pétition, mes chers grandes gueules, Bruno?
Non, mais surtout pas. Surtout
pourquoi?
Pas. Parce que le football, c'est pas que des ailes de pigeon et puis des jonglages. C'est aussi un jeu physique, un jeu brutal et chacun a son jeu. Après que l'Argentine soit fourvoyée en jouant comme ça, moi je suis d'accord parce qu'ils avaient des super joueurs. Mais franchement, ça c'est une pétition de footix. En fait, c'est des neuneux qui connaissent rien au foot parce que le nombre d'équipes, moi je me rappelle d'équipes qui ont été en finale, même qui ont été championnes du monde. L'Allemagne 90, c'était pas très joli à regarder. Hein. Enfin, t'en as plein des comme ça. Moi je comprends pas comment à un moment donné tu peux te dire.
À ce niveau-là quand même.
Tu rigoles ou quoi?
Excusez-moi. Là, pendant le mondial, j'ai pas vu tous les matchs de l'Argentine, mais j'ai juste une question. Il y a un joueur de l'Argentine qui, pendant le match, a mis un coup de boule à un autre joueur?
Non.
Ah, voilà. Enfin, bah, donc voilà. Je crois qu'il y a 20 ans, il y a un mec qui a fait ça. Je sais plus comment il s'appelle.
Le plus grand de tous les temps.
ZZ, je crois.
Ouais, le plus grand.
Et, on n'a pas demandé une pétition pour interdire l'équipe de France.
Oui, mais
donc, je suis désolé.
L'équipe ne se comportait pas ainsi. Là, on a une équipe entière qui,
ils ont fait des petites tacles, des petites.
Ah, mais Barbara, elle défend l'Argentine parce qu'elle aime bien leur président, Milei.
Moi, je défends l'Argentine.
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Et Bruno Poncet, vous savez pourquoi défend l'Argentine.
En plus, j'aime bien.
Il n'osera pas le dire, mais c'est parce qu'il part en vacances.
Il part dans 10 jours.
Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils avaient tous le même look. Parce qu'il y avait une vraie équipe. Ils ont tous le même look. Ils sont tous coiffés.
Moi, j'aime cette équipe. Moi, j'aime les. Alors là, cette année, un peu moins. Mais moi, j'aime l'Argentine. Depuis Maradona, moi, j'aime l'Argentine. Ça fait plus de 40 ans que j'aime l'Argentine.
Excuse-moi. Maradona et Messi, c'est les deux plus grands joueurs de foot au monde avec Pelé, c'est tout, voilà. C'est ça la vérité.
Le problème, c'est que Charles, il a vu un seul match pendant cette Coupe du Monde, mais c'était pas avec l'Argentine, c'était France-Espagne que tu as vu.
Je vous avoue que ce sujet.
Voilà, pour ton expertise quand même.
Il attendait ce sujet d'ailleurs.
Ce sujet.
En tant qu'avocat, est-ce que tu pourrais défendre les Argentins?
Ce sujet me dépasse. Je vous avoue que ce sujet me dépasse. Je n'ai pas vu l'Argentine jouer. Je comprends que c'est une équipe de racailles, somme toute, c'est assez sympathique.
Mais oui.
Je pense que Milei est un très grand chef d'État.
Il ne jouait pas. Hein.
C'était le gardien, en fait.
Il est d'ailleurs pas venu voir le match. Hein. C'est un signe.
Voilà, il a autre chose à foutre.
Il a autre chose à faire, il reste son pays.
Lui. Guillaume est avec
quand
nous.
Quand je serai chef de l'État, je n'irai pas voir les matchs.
Il y en a qui vont voir des spectacles de BTS, il y en a qui vont voir des matchs de foot et qui ruinent leur pays. Bah, lui, il s'occupe de l'Argentine. Voilà.
Guillaume est avec nous. Bonjour Guillaume de Pessac.
Bonjour les grandes gueules. Bon, très heureux d'être avec vous, là, les trois grandes gueules que j'aime beaucoup, même si je suis jamais d'accord avec Bruno, mais j'aime beaucoup.
Vous auriez signé cette pétition?
Bien sûr que non, Bruno a raison, c'est que c'est des footix, ça. Mmh. Mais là où je suis pas d'accord avec Bruno, c'est que oui, le foot, ça peut être quelque chose de violent, c'est un jeu de contact, d'évitement et physique. Mais on oublie une chose, là, vous parlez des Argentins. Mais parce qu'on les a laissés faire depuis le premier match.
Ça, on est d'accord.
Et la complaisance, du
les
côté
mecs,
des arbitres.
Ils découpaient à la hachette tout le monde. Messi, normalement, il prend un rouge au premier match.
Ah oui, c'est sûr.
Voire un deuxième. Je veux dire, ils ont laissé faire match après match.
Et alors pourquoi?
Donc, on ne s'étonne pas. Pourquoi? Parce que pour moi, alors je ne suis pas du tout complotiste, mais quand on regarde leur tableau où il n'y avait aucune grosse nation, quand on regarde la mansuétude de l'arbitrage, de la VAR, etc. La VAR, excusez-moi, mais même pour France-Espagne, c'est un scandale. Le pénalty, il y a une main de Yamal avant qu'il se fasse faucher. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que l'Argentine, on peut dire ce qu'on veut, des voyous, des machins. La seule chose où ils devraient être sanctionnés, et je parle de la fédération et de l'équipe, c'est cet inadmissible baston à la fin de la finale.
Ouais, c'est vrai.
Là, il pourrait y avoir enquête.
Non, mais Guillaume,
après,
en plus...
pour le reste, on a laissé faire. C'est tout, hein.
Guillaume, t'as raison, parce qu'en fait, si tu regardes bien, ils sont champions du monde en 2022, pareil, avec une mansuétude d'arbitrage, et à l'époque, Messi joue dans le club du Qatar, hein, c'est le PSG, on va pas se mentir.
Exactement.
Et là, en 2026, Messi joue aux États-Unis et encore une fois, il arrive en finale, tout est fait pour qu'il arrive en finale, parce qu'en fait, pour le business, c'est bon. Mais c'est bon pour le business, parce qu'une finale avec Messi, ça sera toujours mieux qu'une finale sans Messi.
Donc
pour
on a favorisé cette équipe.
Bien sûr,
merci Guillaume.
On va écouter Amadou. Merci Guillaume d'avoir appelé depuis la Gironde. Amadou, lui, du côté de Reims, dans la Marne. Bonjour Amadou.
Oui, bonjour, vous allez bien l'équipe?
Ouais, ça va pas mal. Ouais. Alors l'Argentine, ils auraient pu signer cette pétition?
Non, en fait, moi, comme je disais tout à l'heure au standard, en fait, moi déjà, j'ai 39 ans et je suis tombé amoureux déjà de l'équipe d'Argentine, en fait, à partir de 98. En fait, j'ai adoré l'équipe à l'époque de Crespo, Batistuta, Pablo Ema, Riquelme, Sourine, franchement, j'ai adoré toute cette génération. Riquelme me faisait rêver, Pablo Aymar aussi. Par contre, moi, franchement, j'étais déçu de leur comportement, surtout après, à partir de 2022, avec les propos racistes. Enzo Fernandez qui se filme dans le bus du car argentin qui tient des propos racistes sur l'équipe de France. Moi, franchement, ça commence à
Enzo Fernandez, c'est vraiment la tête à claque.
À me décevoir. Et aussi, franchement, je trouve que pendant toute cette Coupe du Monde-là, ils se sont comportés, comme tu l'as dit tout à l'heure, Olivier, comme des racailles. Parce que franchement, une équipe africaine, noire ou maghrébine, qui se comporte comme Argentine s'est comportée, tout de suite en France, le mot racaille va sortir tout de suite.
Je suis d'accord avec vous, Amadou. C'est pour ça que j'ai utilisé ce mot à Essien. J'ai dit racaille parce que c'était des comportements de racaille.
Voilà, et là, parce que c'est l'Argentine, on parle de grinta, on parle de machin, etc. Il n'y a pas de grinta. Il faut arrêter avec ces mots-là.
Mais alors, pourquoi la FIFA laisse ça?
L'arbitrage, et comme tout à l'heure, moi je suis d'accord avec celui qui vient de parler tout à l'heure, l'arbitrage les a laissé faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont commencé à faire des fautes dans tous les sens et on n'a pas sifflé, et au niveau de la FIFA, apparemment, il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura pas de suspension pour Paredes. Hein. Paredes qui a carrément tabassé Eric Garcia et Gavi, il n'y aura pas de sanction sur Paredes. Ça, c'est scandaleux.
Mais ce qui en plus, je veux dire, non seulement il y a un mauvais comportement sur le terrain, mais une fois le coup de sifflet final, ils ont été se battre avec les Espagnols. Enfin, je veux dire, ils ont perdu le match. Ils ont été régler leur compte. C'est dingue de se comporter ainsi. Et c'est pas la gloire de Messi qui a été un très grand joueur, mais sur le terrain, c'est pas quand même.
Peut-être un grand joueur. Je suis pas sûr que c'était un grand homme. Par contre, ça, c'est sûr. Depuis des années, là, il dit des trucs, il fait des trucs, Messi.
Bon. Est-ce qu'on a fait une petite question sur le compte X des grandes gueules sur cette pétition? Fallait-il oui ou non signer cette pétition? Auriez-vous pu signer la pétition? C'est précisément la question que nous avons posée. Vous dites oui, bien sûr, à 60,5%, non, absolument pas. 39,5%. Là, vous êtes,
Jean-François
et Barbara, un peu minoritaire sur
cette.
C'est pas grave.
On s'en fout.
Bon, on va se quitter là, mais avant quand même, je voudrais me tourner vers Barbara Lefebvre.
Oui.
Parce que c'était ta dernière dans les grandes gueules aujourd'hui.
Tout à fait, les amis.
Et donc, quand même. Quelques mots pour te dire merci tout d'abord d'avoir participé pendant toutes ces années. Je ne sais même plus quand tu es arrivé.
Cette année,
j'ai toujours du mal avec les dates. Ouais. Cette année de GG, c'est pas rien quand même.
Non, c'est pas rien, mais je vous remercie. Je voudrais vraiment très chaleureusement et très affectueusement remercier les auditeurs. Parce que vraiment, sans les auditeurs, en particulier dans tous les déplacements qu'on a fait, les délocs, j'ai fait des rencontres. Enfin, moi, je pensais pas qu'on était aussi appréciés, aussi soutenus par nos auditeurs. Et vraiment, cette émission, elle est faite pour eux. Et voilà, je les remercie infiniment de leur soutien. Et 9 fois sur 10, ils venaient me dire « continuez à dire ce que vous pensez, etc. » Donc, qui s'inquiète pas. J'étais une grande gueule avant les GG, je vais rester une grande gueule après.
Bah, t'es une grande gueule dans la vie.
Voilà, et ils ont pas fini de continuer à m'entendre.
Bon, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite.
Merci beaucoup.
Bon vent à toi. Et puis, nous, on va se retrouver. Oui, Charles,
non, moi, je veux rendre hommage à Barbara. Je pense
je vais
que
pas
ce
mourir.
Sera... Non, mais je pense que ce sera une...
C'est
quand
mieux,
même...
les hommages sont vivants.
Ce sera une perte pour l'émission. Parce que je pense qu'elle a un franc-parler qui confine au courage et que dans cette époque où les gens où le courage n'est pas la qualité la plus répandue, Barbara a une espèce de courage et d'intégrité intellectuelle que j'ai plusieurs fois remarqué, même si j'étais pas toujours d'accord avec elle. Et donc, je trouve que c'était une grande gueule éminente. Voilà.
Merci Charles.
Barbara.
À bientôt à tous.
Nuance nous manquera. La nuance de Barbara nous manquera.
Et à demain, 9h, pour de nouvelles aventures avec vos GG. Bon après-midi.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.